Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream, Liam?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con, les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Ma pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct, bonjour à ceux qui nous suivent en podcast. Vous écoutez CinéZoom, l'émission qui vous parle cinéma. Alors après une semaine de festival très riche, nous nous retrouvons tous les trois. Je suis en compagnie de Rémi, notre professionnel et notre directeur du festival. Bonjour Rémi.
Bonsoir Françoise.
Et je suis en compagnie de Pierre, notre président de l'association KinoZoom. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors au sommaire aujourd'hui, bien évidemment, en première partie, nous reviendrons sur le festival du film qui vient de s'achever. Et ensuite, en deuxième et troisième partie, nous vous présenterons les deux prochains films du Ciné-Club, Rocco et ses frères de Visconti et La Combe Lucien de Louis Malle. Et enfin, pas de Ciné-Zoom sans quiz musical. C'est parti. Alors Rémi, donc on va commencer par parler du festival, revenir sur ce grand événement. La 12e édition vient de s'achever, c'était le 24 mars dernier. Peux-tu nous dresser un petit bilan ?
Tout à fait Françoise, je te propose d'aborder cela en chiffres. Donc cette 12e édition a été l'occasion de proposer 39 longs-métrages, 28 courts-métrages, 3 pièces de théâtre sur grand écran, une table ronde, une conférence, une lecture et 2 expositions.
Et le public alors dans tout ça ?
Eh bien oui, hein, nous avons même enregistré notre deuxième meilleure édition en termes de fréquentation avec plus de 3500 spectateurs, dont il est important de rappeler que cela concerne un panel de spectateurs très varié. Hein. En effet, nous adressons à tous les publics et tout le monde a répondu présent.
Alors, ce chiffre de fréquentation ne concerne peut-être pas seulement le public venu au cinéma ?
Eh bien oui, hein, en effet, nous pourrions ajouter à cela les publics concernés par les animations proposées hors les murs du cinéma Renaissance, hein, où s'est tenue la majeure partie de la manifestation, et notamment les actions menées par les élèves du lycée Bélair de Fontenay-le-Comte, dont des dizaines d'enfants et adultes ont pu bénéficier en amont du festival.
Alors, il faut également évoquer le palmarès de la compétition des courts-métrages.
Eh oui, nous avons proposé cette compétition pour la 6e année consécutive et 3 courts-métrages sur les 10 sélectionnés se sont vus récompensés. Donc Le Temple du Québécois Alain Fournier, une adaptation en film d'animation de Lovecraft qui repart avec les prix des lycéens et une mention spéciale du jury. Nous avons eu également Une nuit particulière du français Enzo Martinez, adapté d'un texte de Joël Pommerat, qui repart avec le prix du public, et également L'angoisse et l'extase, un film d'animation à l'esthétique surréaliste signé Mangusta, un pseudonyme derrière lequel se trouvent les réalisateurs italiens Lucia Marbella et Niccolo Manzolini.
Oui, tu évoques le surréalisme, en effet ce film s'intéresse à l'écrivain Raymond Roussel.
Et tout à fait, hein. Et qui mieux que les réalisateurs eux-mêmes pour en parler, ils étaient là pendant le festival et nous avons pu les interroger.
La rencontre, c'est à travers un auteur italien, en effet. Parce qu'on ne connaissait pas Raymond Roussel, mais on est tombé sur un livre d'un auteur italien qui s'appelle Leonardo Sciascia, qui est un auteur et journaliste très important, qui en aime beaucoup, des moitiés 1900, années 50, 60, 70. Et il a écrit un livre sur la mort de Raymond Roussel. Il a fouillé tous les actes de sa mort pour arriver à trouver une réponse, parce qu'il est mort à Palermo, Raymond Roussel. Et donc, il est allé à travers tous les actes de la mort pour trouver une réponse. Et en effet, les livres, il n'arrive pas à donner une réponse, il pose des autres doutes, il ouvre d'autres portes. Et ça nous a frappé. Donc, on a commencé nous-mêmes à explorer l'univers de Roussel. Et là, se sont ouvert plusieurs portes encore. Et on a trouvé un univers incroyable. Des signes, des choses ont commencé à s'enchaîner, qui nous a amené encore plus loin. Et donc là, on a commencé à écrire notre propre histoire à partir des actes de la mort, en effet.
Si le film, c'est une relecture de la mort de Roussel qui se répète 5 fois dans le film et qui amène d'autres symboles qui entourent la vie de Roussel et qui reste un énorme énigme pour tout le monde, quoi. Et tous les gens, même Foucault, qui cherchent de rentrer dans la poétique roussélienne, Foucault, il disait que Roussel, c'est un labyrinthe.
Donc Roussel, c'est un labyrinthe. Et donc j'ai demandé à Lucien Marbella et à Niccolò Manzolini ensuite comment ils avaient procédé dans la création de ce film.
Notre façon de travailler, c'est un peu comme ça. On parle d'histoires vraies, très liées à la réalité, à l'histoire surtout. Et après, on fictionnalise et on part dans une autre direction où on cherche de donner l'essence de balance entre réalisme, imagination, réalité et capacité de transformer la réalité à travers les rêves, l'hallucination aussi.
Et donc c'était quelque chose qui résonnait beaucoup avec ce qu'on fait normalement. Et donc on s'est passionné, on a écrit, on a travaillé beaucoup. Ça nous a pris beaucoup d'années, 5 ou 6. Et c'est un ping-pong, on dit ça en français aussi.
Oui, ouais, ça marche.
Entre les dessins et la lecture et entre moi et lui, entre nous. On fait aller-retour.
Et aussi entre les dessins et l'écriture, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on capte des trucs qui viennent de la lecture de certains documents, de ce qu'on trouve pendant la route et tout ça. Après, on dessine. On commence à écrire, après on redescend, on revient sur l'écriture et en fait ça pose une stratification qui est de bout en bout assez aisément arrive à avoir une linéarité quoi, qui nous convient.
Ça passe beaucoup qu'un des deux fait un dessin et l'autre les refait et sur ça les dessins et les concepts évoluent.
Après, sur ce film-là, Roussel, c'était aussi un jeu surréaliste, donc des automatisations de processus d'écriture. Donc, au bout d'un moment, on ne s'attendait pas d'avoir un film qui racontait une histoire, mais qui évoquait des fantômes, quoi. Donc, c'était plutôt vraiment jouer sur les côtés surréalistes de la vie de Roussel, quoi, aussi, qu'il a épaté aussi les surréalistes eux-mêmes.
Voilà, et donc si vous voulez voir un petit peu à quoi tout cela ressemble, je vous invite à vous rendre sur le site d'IKIFILM, I-K-K-I, film avec un S, où vous pourrez retrouver quelques visuels et une bande-annonce, voilà, en attendant de pouvoir voir le film en entier sur Internet très prochainement.
Bien, oui, en effet, c'est un film magnifique qu'on peut recommander à nos auditeurs. Alors, s'ils souhaitent justement en savoir davantage sur ce bilan, que peuvent-ils faire, Rémi ?
Alors, en se rendant sur le site du festival, vous pourrez retrouver la revue média et d'autres informations. Et pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l'expérience ou la revivre d'une autre manière, nous avons enregistré à ces mêmes micros de Dig Radio 5 épisodes hors série avec Nicolas, que nous remercions à nouveau. Et donc, 4 épisodes sont des entretiens avec nos invités, Mathieu Jaja pour l'hommage à De Funès, Cécile Mestre Chabrol pour l'hommage à Chabrol, Laurent Delmas et Dominique Pinon.
Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs un 5e épisode hors série qui est l'enregistrement de la table ronde autour de notre thème cinéma, cuisine et gastronomie que nous avions enregistré en direct, en public, avec notre invité Laurent Delmas, que je vous recommande aussi, qui doit bientôt être diffusé.
C'est ça, donc nous ne pouvons que vous inciter à aller les écouter, c'est tout à fait complémentaire de ce que nous avons proposé pendant le festival, et cela peut s'écouter indépendamment sans problème.
Bien, on ne peut pas clore ce bilan sans adresser des remerciements.
Eh bien, tout à fait. Un remerciement à nos partenaires, comme la région des Pays de la Loire, la ville de Fontenay, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, le département, ainsi que la DRAC, et aussi notre partenaire Cinéode, qui gère le cinéma le Renaissance, et qui nous aide à la fois de manière technique, financière aussi. Et donc voilà, sans qui tout ça ne serait pas possible.
Bien, merci Rémi pour ce bilan. Alors on peut peut-être donner rendez-vous à nos auditeurs pour... Alors la 14e édition, il n'y en aura pas de 13e, c'est ça?
Je suis superstitieux peut-être, je m'en suis pas rendu compte. Non, ce sera la 13e, évidemment.
Ah, quand même, tu oses, d'accord, je me suis interrogée. Donc c'est bien la 13e édition qui nous attend. Alors, est-ce que tu nous en parles? Tu as déjà les dates?
Et donc, ce sera du 16 au 23 mars 2025. Et quant au thème...
Alors oui, le thème, écoutez, je pense que c'est un peu tôt pour en parler, hein, il faudra encore un peu patienter. Et maintenant, eh bien, je vous propose tout simplement de partir en Italie.
Tutti fratelli?
Sì, tutti fratelli. Senti, prima che finisce l'anno, te porti io qui. Beh, quando scommetti? Aspetta che diventi professionista e poi vieni.
Dai, forza! Dai, Simone!
Poi la box è veramente bene. Sta a sentire quello che ti dico io. Se tu non ci stai attento, questo ti fa pure le scarpe.
Me ne sono informato io. Specialmente dalle parti della Ghisolfa. La sera.
Che cosa vuoi, Simone? Cosa volete tutti?
Simone! Simone!
Cacca, aiuto!
Che è successo?
Torna a Simone.
Di che si tratta?
Sacci, la polizia lo cerca, pare che c'è l'ordine d'arresto contro di lui.
Fratello, no, per me non conta più. Se in mezzo a noi ce n'è uno guastato, lo dobbiamo separare dagli altri.
Tala, la rovina sua si state proprio tu.
Certains auront peut-être reconnu la bande-annonce de Rocco et ses frères. Alors c'est vrai qu'avec cette bande-annonce, on est plongé dans la tonalité dramatique du film de Visconti. Alors c'est le prochain film du Ciné-Club, projeté donc le lundi 12 avril à 20h30 et lundi 15 avril à 18h. Rémi, on va commencer peut-être par dire quelques mots sur le maestro.
Assez brièvement, oui. Alors Visconti est né en 1906 à Milan. Il est d'ailleurs issu d'une illustre famille de nobles qui régnait sur Milan entre le 14e et 15e siècle, n'est-ce pas? C'est un réalisateur de cinéma, évidemment, mais également metteur en scène de théâtre et d'opéra. Il est considéré comme l'un des réalisateurs les plus importants du cinéma européen, ayant notamment contribué à fonder le néoréalisme italien dans les années 40 avec le film Les Amants Diaboliques. Alors ce mouvement du néoréalisme est assez fondamental dans l'histoire du cinéma, mais je ne m'étends pas car Pierre va nous en parler davantage. Alors je reviens un peu en arrière car c'est en 1936 que sa carrière cinématographique commence, lorsqu'il est engagé comme assistant réalisateur et costumier sur deux films de Jean Renoir, on en reparlera un petit peu aussi, donc Les Bas-fonds et Une partie de campagne. Après un voyage à Hollywood, il collabore une fois encore à l'un des projets de Renoir, La Tosca, adapté de l'opéra de Puccini. Visconti participe au scénario et assiste Renoir avant que ce dernier ne soit remplacé par l'allemand Karl Koch au moment où éclate la guerre. Il dirige ensuite son premier long-métrage, Les Amants Diaboliques. Alors Visconti n'a pas une immense filmographie, 14 longs-métrages à son actif, mais quel film, consacré à des sujets tels que la beauté, la décadence, la mort et l'histoire européenne, et tout particulièrement le déclin de la noblesse et de la bourgeoisie, thème évoqué à plusieurs reprises dans ses films, comme Le Guépard, ainsi que dans la trilogie allemande qui comprend Les Damnés, Mort à Venise, Ludwig, Le Crépuscule des Dieux. Il décède en 1976 avant de terminer le montage de L'Innocent, son dernier film.
Merci Rémi. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous présenter le film en quelques mots, nous dire de quoi il parle?
Rocco et ses frères, c'est l'histoire d'une famille, c'est la famille Parondi. C'est une famille du sud de l'Italie, c'est en fait la mère avec ses 5 fils, puisque le père est mort. Et ces 5 fils, c'est des jeunes adultes, ils ont 20-25 ans. Ils arrivent à Milan et puis ils font ce qu'ils peuvent pour s'intégrer dans la ville de Milan. Et c'est très très compliqué, évidemment, puisque quand on arrive un peu pauvre du Sud et qu'on arrive dans la grande Milan industrielle, c'est compliqué. Donc on suit les différents fils, il y en a un qui cherche à s'intégrer, un autre qui travaille dans une usine, un troisième qui mène un peu une vie facile, puis qui se tourne vers la boxe. Et puis au milieu de tous ces fils, bon, bah, y a Rocco, hein, qui est une espèce de trait d'union entre tous. Et Visconti filme de façon extraordinaire toutes ces trajectoires variées, toutes ces trajectoires croisées. Évidemment, ce n'est pas simple, on cède, on se déchire, enfin voilà. C'est un grand film, très très grand, hein, qui a une ampleur très très grande. Et ce n'est pas tant une fresque familiale que nous montre Visconti, c'est une tragédie familiale.
Oui, tragédie d'autant que ces cinq trajectoires nous sont racontées en parallèle. On a une construction vraiment...
Le film est chapitré, oui.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, cette histoire de nord et de sud de l'Italie dans le film, c'est important ?
C'est très important parce que c'est très important en Italie, en fait. Hein. L'Italie n'est pas organisée comme en France. Surtout après la guerre, là, dans les années 50-60, le nord de l'Italie est très, très riche, très industriel, hein, avec Turin, avec Milan... qui sont les grandes usines Fiat, Alfa Romeo, qui boostent industriellement toute la région. Et le sud est très délaissé, le sud est très campagnard, et plus on est au sud, plus c'est pauvre, quoi. Jusqu'à la Sicile, qui est très au sud et qui est très pauvre. Donc il y a vraiment une opposition comme ça, et là, quand on a une famille du sud qui arrive à Milan, c'est un grand écart d'emblée qui est raconté par le film, qui est posé, quoi. Il pose ça sur la table, et qu'est-ce qui se passe quand on fait jouer ce scénario, quoi.
Oui, et est-ce que tu pourrais nous dire quel est le propos de Visconti justement à ce sujet ?
Eh bien, du coup, Visconti, en parlant de sa famille, de cette famille et de tous ces fils qui se croisent, il a évidemment un regard sur l'Italie et précisément sur Milan, et il porte un portrait très très sombre sur Milan, à l'image, graphiquement, puisqu'évidemment Visconti c'est un regard de cinéaste, donc ces images sont incroyables par rapport à ce qu'est Milan à l'image. Milan est très très sombre, Milan semble n'être qu'une succession d'immeubles défraîchis, de rues sombres, de logements vétustes, évidemment que traverse la famille en question. Sur le plan humain, c'est très dur également, puisque les petits boulots succèdent, il y a très peu d'espoir, ça n'avance pas, c'est très difficile. Et puis il y a de la corruption, et puis il y a des tentations, et puis il y a mille difficultés, et puis la vie est difficile, et puis tout écrase tout, quoi. Donc il a vraiment ce regard sur Milan. Et Visconti, on le connaît, il a aussi un regard, à l'époque en tout cas, dans cette première partie de cinéaste, hein, sa première partie de sa filmographie, il a un vrai discours. Hein. Rémi nous l'a dit, Visconti est issu de la très grande famille des Visconti, du duché de Milan. Donc il est aristocrate, il est d'une famille très noble, et il a pourtant, et dans tous ses premiers films, un regard de sympathisant communiste, hein, très clairement. Tous ses premiers films portent cette patte-là. Il n'est pas du tout du côté des aristocrates, si on veut, il est du côté du peuple, et là complètement. Donc il a un regard sur Milan et sur ce qui se passe du côté du peuple. Et il montre combien les fils, combien la famille va être éreintée, va être exploitée. Et évidemment, au centre de tout ce qu'il nous raconte, il y a la boxe, puisqu'il y a Simone, puis ensuite Rocco qui se mettent à la boxe. Et la boxe devient une métaphore, qui est la métaphore classique de la boxe ici, c'est la métaphore de la violence capitaliste, de la violence de la ville. On prend des coups, on donne des coups, mais on en prend, et là, la famille en prend énormément. Et ce qui est très important, je ne veux pas trop évidemment dire ce qui se passe dans ce film, mais non seulement on prend des coups, et les corps prennent des coups, mais les frères se désunissent, c'est très compliqué. Rien n'est simple, évidemment, quoi. Et il y a une dénonciation, hein, donc il y a un discours de Visconti sur ce qui se passe à Milan.
D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible de rattacher ce que tu viens de nous dire avec ce néo-réalisme italien dont Rémi a parlé, hein. Donc, Visconti a fondé le néo-réalisme italien.
Oui, en tout cas, c'est l'un des très grands fondateurs. Le néo-réalisme, en quelques mots, donc c'est un courant cinématographique qui est absolument fondamental. On est en Italie, on est à la fin de la guerre, enfin on sort de la guerre, et à ce moment-là, les studios sont complètement laminés par la guerre, à la fois parce que physiquement, ils sont en partie détruits, et aussi parce qu'ils ont été très utilisés par Mussolini et donc le parti fasciste en termes de propagande. Donc à la sortie de la guerre, il n'est plus question de tourner en studio, c'est très difficile. Et des cinéastes, alors Visconti commence, et puis il y a quelques autres, Rossellini évidemment, ou De Sica, Vittorio De Sica, qui changent complètement leur manière de faire, qui prennent leur caméra et qui descendent dans la rue pour filmer l'Italie. Et l'Italie de cette époque, c'est une Italie vaincue, c'est une Italie délabrée, c'est une Italie pauvre. Et c'est ça qu'ils vont capter avec leur caméra. En se passant des studios, en se passant d'acteurs professionnels, ils vont aller directement en contact. Et ce qui sort de là est extraordinaire. Il y a des films fabuleux, évidemment, des réalisateurs que j'ai cités. Et puis, bien sûr, le premier, donc, historiquement, s'il faut une date, c'est Les Amants Diaboliques, qui est vraiment en 42. Donc la guerre n'est pas encore finie, que déjà ça commence. Et puis ensuite, c'est Rome, ville ouverte, c'est, etc. C'est Le Voleur de bicyclette. Enfin, voilà. Et ce courant cinématographique s'installe et va avoir une influence considérable après sur le cinéma mondial. C'est quelque chose de considérable. Et donc Visconti est dans les deux, trois très très grands qui innovent. Voilà. Et évidemment, Rocco et ses frères se rattachent à ce courant par son thème, par son style, par la manière qu'a Visconti de chercher à capter comme ça le pouls des Italiens et de Milan.
Et alors d'après toi et d'après tout le monde, d'où vient ce néo-réalisme italien, d'où le tient-il?
Alors c'est ça vient de plusieurs réalisateurs et puis il y a plusieurs influences, mais il y en a une très nette, hein. Rémi en a parlé, c'est évidemment Visconti a été premier assistant de Renoir, donc Jean Renoir qui est évidemment le réalisateur français qu'on connaît, et notamment sur plusieurs films, et Tony en 1935, qui est peut-être l'un des premiers films qui a vraiment une connotation populaire dans le sens néo-réaliste du terme. Et Renoir à ce moment-là, on est avant-guerre, fait partie d'un courant qu'on parle du réalisme français, dont Renoir, Rémi citait les Bas-fonds tout à l'heure, ou Tony, il a un regard sur ce film qui sera le regard des néo-réalistes sur le cinéma.
Oui, partie de campagne d'ailleurs auquel Visconti a participé. Il en parle très très bien d'ailleurs. Alors justement, il en parle très bien, je vous propose de l'écouter. Voilà ce que disait Visconti de Jean Renoir au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie. Une émission qui date de 1969.
Vous vous reconnaissez de quel maître?
Moi, dans quelqu'un d'autre?
Oui.
Mais non, mais pourquoi? Je me reconnais en moi-même, c'est tout.
Jean Renoir, pour vous, c'était une grande
étape.
Jean Renoir,
c'est une idole. On ne peut pas la toucher. C'est mon maître, c'est mon tout. C'est mon dieu. Et c'est fini. Mais Jean Renoir, il y en a un seul.
Il n'y en a pas d'autre?
Non, il n'y en a pas d'autre.
Alors, c'est délicieux ce qu'il dit de Jean Renoir. Poursuivons maintenant avec cet extrait de Rocco et ses frères. Alors, je précise qu'on renonce exceptionnellement à la version originale. Le but est de vous faire écouter ces voix françaises, deux grandes voix du cinéma que les auditeurs pourront facilement reconnaître.
Et de moi, qu'est-ce que tu penses?
Rien.
Courage, va. Je ne me vexerai pas, tu peux être sincère.
Ben, je pense. Quel âge peux-tu avoir?
Et c'est tout? 25 ans et après?
Tu m'as demandé ce que je pensais.
Tu as raison, si c'est tout.
Tu es fâché?
Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai pour que tu continues à me regarder comme ça?
Je te demande pardon. Je sais pas pourquoi. Mais tu me fais tellement de peine.
Voilà un compliment choisi. Ne te frappe pas, c'est la fatigue. Tout compte fait, j'ai pas eu des vacances tellement folichonnes. Et ce qui m'attend n'est pas tellement marrant non plus.
Mais pourquoi dis-tu ça? Chacun peut avoir la vie qu'il veut, s'il la veut vraiment. Mais il faut pas avoir peur. Et toi, tu as toujours l'air d'avoir peur.
C'est un rôle de numéro, toi. Il vaut mieux que tu ne me dises plus rien, tu sais. Tu vois l'effet que ça me fait.
Tu préfères que je m'en aille?
Tu es bête. Accompagne-moi jusqu'à la gare. Mais ne me parle plus de moi parce que c'est le genre de conversation qui me déprime. Et à ma place, qu'est-ce que tu ferais?
J'aurais confiance. J'aurais plus peur. J'aurais vraiment confiance.
Mais en quoi?
Je ne sais pas, en tout.
En toi aussi?
Oui, en moi aussi.
Tu viendras me voir quand tu seras à Milan?
Oui.
Tu arriveras peut-être à m'apprendre à ne plus avoir peur.
Oui.
Alors, il y a la musique de Nino Rota qui est magnifique, et il y a aussi les voix des acteurs. Pierre?
Eh bien, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais effectivement, c'est un dialogue entre Alain Delon, hein, qui joue Rocco, et puis Annie Girardot, hein, qui joue Nadia. Donc, on est en 1960, et Alain Delon va être propulsé. Enfin, il a déjà été révélé par René Clément avec Plein Soleil. Et là, évidemment, il est pris en main par Visconti, il va être propulsé. Et Annie Girardot, c'est un peu étonnant, puisque dans le... comment dire, dans la mémoire collective qu'on a d'elle, on a plutôt des idées sur des rôles secondaires, on est plutôt dans la comédie, où bon, y a plusieurs films importants de Gessua, etc. Mais néanmoins, Girardot a plutôt cette image dans le genre de comédie. Et en fait, en 1960, elle a un rôle extrêmement tragique, qui est très très beau, hein, qui est un rôle magnifique. Au milieu de tous ses fils, là, y a Nadia quoi, qui rayonne. Donc oui, Annie Girardot, extraordinaire rôle.
Oui. Justement, je vous propose d'écouter ce que disait Visconti de Delon.
Pour vous, Alain Delon est le comédien.
Mais enfin, un des comédiens que j'ai formés. Il y en a d'autres, Mastroianni par exemple, Gassman. Enfin, j'ai eu beaucoup de jeunes comédiens qui sont devenus des vrais et des sérieux comédiens dans mes mains. Delon est un des derniers. Après Delon, il y a eu d'autres encore. Il y a le jeune Berg dans Les Damnés par exemple. Mais au fond, Delon a fait la preuve la plus... importante pour lui dans Rock et ses frères, n'est-ce pas? Il était juste au début de sa carrière, il était déjà pas mal, mais...
C'est très important pour lui,
oui,
à ce moment-là.
Et puis après, il a fait du théâtre avec moi, ce qui était aussi important. Quoique en ce moment, Alain était encore un tout petit peu... vert, comment on dit, pas trop mûr, non, pour faire du théâtre. Mais ça a été, pour lui, une expérience très importante, je crois, très utile. On m'a dit qu'après, il a refait du théâtre quand il a fait la pièce de Co... et qui était très très bien, je ne l'ai pas entendu moi. Oui.
Alors on a Delon ici, et puis Annie Girardot, on a aussi d'ailleurs Renato Salvatori qui joue Simone. Alors Pierre, tu nous as pourtant dit que les cinéastes du courant néo-réaliste recouraient à des acteurs non professionnels.
Alors oui, effectivement, c'est très souvent le cas au début. Alors d'abord, les réalisateurs font toujours ce qu'ils veulent, hein. Ils ne vont pas s'interdire ou s'enfermer dans des codes. Donc s'ils veulent aller chercher des acteurs, ils prennent des acteurs. Au début du courant néo-réaliste, donc dans les années 40 et puis 50, c'est ce qu'on observe. Et puis là, on est plutôt en queue de comète du courant. Et puis pour Visconti lui-même, c'est vraiment son dernier film en fait néo-réaliste, enfin sur ce regard un peu du côté du peuple, puisque Rémi nous l'a dit, hein, la filmographie de Visconti est vraiment coupée en deux, et il va complètement changer l'axe de sa caméra, et il va cesser d'être du côté du peuple, ça va lui être beaucoup reproché, hein, idéologiquement, pour s'intéresser au crépuscule de la classe aristocratique, ensuite dans ses films, hein, toujours autour de thèmes de famille, d'une décadence de classe, hein, avec Mort à Venise, Ludwig, l'Innocent, le Guépard, voilà. Donc on est vraiment en fin de néoréalisme, c'est pour ça qu'on a, malgré ce que j'ai pu en dire, effectivement des acteurs extraordinaires, mais professionnels, oui.
Merci Pierre. Alors, je vous propose de passer maintenant à la présentation du deuxième film, extrait.
Il faut que je vous ramène.
C'est dommage que tu ne saches pas danser. Je vais t'apprendre. Laisse-toi aller. Tu vois, c'est facile.
Robert m'a dit que c'est la fille d'un juif. Elle n'a pas le droit de venir ici. Sale juive. Sale juive. Sale juive. Sale juive. Alors, tu couches avec une juive. Tu crois que ça va se passer comme ça? Mais je vais chercher les branches, moi, tout de suite!
Alors calmez-vous, ma petite Marie, c'était pas si grave.
Sale juive. Elles sont toutes à la vérole. Quentin, elle va te foutre à la vérole. Lâchez-moi. Je voulais parler, moi. Je voulais parler, cette salope. Elle n'a pas le droit. Lâchez-moi. 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 Moi, je veux... Non.
Donc c'est un extrait où l'on voit à l'écran Pierre Blaise, qui est un acteur peu connu parce qu'il a eu une courte carrière, il est décédé très très jeune. Et Aurore Clément, ils esquissent un pas de danse. Alors ce sont les deux acteurs principaux du deuxième film du Ciné-Club du mois d'avril, La Combe Lucien. Le film est projeté en séance unique le mercredi 17 avril à 18h. Alors Rémi, le film est sorti en 1973, mais on peut commencer par présenter le réalisateur Louis Malle.
Tout à fait, hein, donc qui est né en 1932 dans le nord de la France, hein, au sein d'une famille bourgeoise. Alors il se dirige rapidement vers le cinéma, hein, et fera un passage à l'IDEC, hein, qui est devenue la FEMIS, la grande école de cinéma français. Et il devient assistant du commandant Cousteau, figurez-vous, puisqu'il va co-réaliser le Monde du silence, hein, qui sera la palme d'or du Festival de Cannes 1956. Et il travaille ensuite sur Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Alors ensuite, il va réaliser son premier long métrage, hein, Ascenseur pour l'échafaud, à l'âge de 25 ans. Et c'est un cinéaste qui s'inscrit quand même à la marge de la nouvelle vague. Et dans ce premier film, qui est servi par une bande originale de Miles Davis, il est distingué par le prix Louis de Luc en 1957. Et le cinéaste fera à nouveau tourner Jeanne Moreau, hein, qui était dans Ascenseur pour l'échafaud, dans son deuxième film, Les Amants, en 58. En 60, hein, on a un changement de registre complet avec son troisième long métrage, puisqu'il s'agit de Zazie dans le métro, donc qui est une adaptation burlesque, hein, du roman de Raymond Queneau, et qui met en scène la jeune Catherine de Mongeau et Philippe Noiret dans les rues de Paris. Ensuite, on a Vie privée en 62, un essai sur le mythe de la star, et Viva Maria en 65, une comédie d'aventure, hein, dans le milieu du music hall, où Louis Malle fait tourner l'une des actrices les plus populaires de l'époque, Brigitte Bardot. De film en film, Louis Malle continue à explorer les genres, hein, en alternant entre fiction et documentaire. C'est vraiment un cinéaste assez particulier à ce niveau-là, hein, que ce soit dans son esthétique ou dans les sujets abordés, c'est vraiment très, très différent à chaque fois. Et en 71, il signe Le souffle au cœur, inspiré de son histoire familiale, hein, où il aborde sans jugement le tabou de l'inceste, hein, donc c'est un peu un film choc. Et en 74, La Combe Lucien, sur lequel on va revenir plus longuement. Voilà, et ces deux films voilà, sont assez chocs et feront beaucoup de remous au sein de la critique française, notamment. Et font que bah, Louis Malle va s'expatrier un petit peu aux États-Unis. C'est le jour durant lequel il va tout de même signer 7 films, dont 2 documentaires. Et il reviendra en France à la fin des années 80, où il va signer un de ses plus grands succès publics et critiques, Au revoir les enfants, hein, qui traite de l'occupation, qui traitait déjà dans La Combe Lucien, mais là avec un regard assez différent. Où voilà, le film raconte durant cette période le point de vue de deux jeunes garçons qui se lient d'amitié. L'un des deux garçons est juif et se réfugie dans un collège catholique. Et l'histoire est partiellement autobiographique, Louis Malle ayant été témoin d'une situation similaire dans sa jeunesse. Et donc Au revoir les enfants décroche 7 Césars et Lion d'or au Festival de Venise. Et son dernier long métrage, c'est Vania, 42e rue, portant sur Oncle Vania de Tchekhov. Et après il décède en 95.
Bien, merci Rémi. Alors, on va parler du film. Alors, évidemment, ce n'est pas simple de parler d'un tel film sans en dévoiler tout l'intérêt. Donc, on va essayer de tourner autour sans gâcher quelques plaisirs que ce soit pour nos auditeurs. Alors, Pierre, c'est un titre assez peu connu que ce La Combe Lucien. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'en parler sans en parler. Alors, allons-y. Donc, on est en juin 44. Hein, donc, évidemment, les Américains viennent de débarquer. C'est encore l'occupation. Donc, c'est pas encore la fin de la guerre, mais le vent commence à tourner. Et ça, c'est très important. Historiquement, c'est plutôt le moment des résistants de la dernière heure, quoi. Mais les Français sont encore sous l'emprise très très forte, hein, sous le satrape de la Gestapo, avec des policiers français collabos. Et en face, il y a une milice qui est organisée, qui est très présente. Donc voilà le contexte. Et puis, au milieu de dans ce contexte, on est dans le sud-ouest de la France, hein, dans une petite ville. Et on a Lucien, c'est un jeune homme de 17 ans, en fait, qui travaille, qui est dans une ferme. Son père est absent. Et il participe à la vie de la ferme, il fait un petit boulot à l'hospice aussi. Voilà le cadre du film.
Oui, et ce personnage de Lucien donc, n'est vraiment pas un héros.
Non, c'est pas vraiment un héros, c'est pas vraiment un anti-héros non plus. C'est juste en fait le personnage principal. Et il est présenté comme ça, c'est-à-dire que c'est un jeune Français moyen, très ordinaire. C'est pas un grand méchant qu'on va haïr, c'est pas quelqu'un qu'on va adorer. Il est fougueux, mais il est ignorant. Il est en quête d'héroïsme, mais il n'a pas de culture. Pas de culture politique, notamment. Très peu de repères moraux. Il est très instinctif. Il est assez médiocre. Il est insaisissable. C'est un personnage assez gris, quoi, hein, qui est ni tout l'un ni tout l'autre.
Et alors, il faut absolument parler de la polémique que ce film a déclenchée.
Alors, il faut en parler, donc sans en parler, toujours oui. Pareil. Oui, alors, en fait... C'est-à-dire que l'époque de l'occupation est très, très vite manichéenne, évidemment, puisque soit on est du côté des résistants, soit on est du côté des collabos. Et le problème, c'est que la combe Lucien n'est pas manichéen. Voilà. Donc, il est, du coup, il est immédiatement ambigu. Il est en pleine zone grise. Hein. Tout est flou dans la combe Lucien. Il joue, en fait, Louis Malle joue avec la frontière entre le résistant et le collabo, qui est une frontière qui est souvent vue comme complètement imperméable. On est soit l'un, soit l'autre, évidemment. Donc, évidemment, il parle des choses qui fâchent. Ça, c'est sûr que... C'est une manière très, très, très originale et très tranchée de parler de ce manichéisme qu'il balaye.
Bien. Alors, est-ce que tu penses que c'est le seul film qui joue à brouiller la frontière entre les deux camps, celui de la résistance et donc celui de la collaboration ?
Alors, c'est pas du tout le seul. Hein. Et à l'époque, déjà, il y en avait déjà un, mais qui est italien. Alors, c'est très différent, mais il joue quand même avec cette ligne rouge. C'est le film « Une vie difficile » de Dino Risi. On est en 61, c'est un autre registre, hein, parce qu'on est quand même dans le registre de la comédie italienne, mais en tout début de film, on a Silvio, le résistant, hein, qui est en plein acte de milicien et qui combat les ennemis. Il se trouve un refuge en plein hiver, il se trouve bien dans ce refuge, on est au tout début du film, hein. Il fait chaud dans le refuge, la soupe est bonne, et résister, ça veut dire ressortir, il fait froid, et il hésite énormément, quoi. Et donc on a une hésitation chez le résistant, dont l'engagement moral semble pas si profond, quoi. Le côté matériel de la chose l'arrange. Donc, Dino Risi joue aussi sur un registre un peu évidemment comique, mais quand même, hein, avec cette ligne rouge qu'il franchit allègrement. Là.
Oui, la tonalité est plutôt satirique, oui. Et ce résistant qui hésite, donc c'est Alberto Sordi.
Et effectivement, dans le film de Dino Risi, c'est Alberto Sordi. Et là, c'est complètement différent de Louis Malle, puisque Louis Malle prend un acteur qui est inconnu, hein, Pierre Blaise. Bon, il va vite décéder, donc on ne connaît à peu près que Lucien, la combe Lucien de lui. En face, l'Italien prend Alberto Sordi, qui est une grande star italienne. Donc c'est très différent, et c'est pas un jeune homme de 17 ans un peu insaisissable. Alberto Sordi, c'est l'Italien moyen, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Donc celui qui hésite à être résistant ou à rester bien au chaud, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Donc là, Dino Risi, c'est très grinçant. Hein. Ça a beau être une comédie, on connaît les comédies italiennes, c'est très grinçant, hein. Il fait quand même feu de tout bois.
Bien. Et alors, on peut peut-être aborder les films qui parlent de l'occupation. Donc, c'est une période récente et tragique de l'histoire. Y a-t-il beaucoup de films français qui ont abordé ce thème ?
Ah oui, il y en a pas mal quand même. Il y a des très très grands films, hein, sur cette période, sur la résistance notamment, et très très tôt. Dès la fin de la guerre, il y a René Clément qui, coup sur coup, a fait La bataille du rail, qui est un film exceptionnel, hein, sur, qui a des relents de documentaires, mais ça n'en est pas un. Sur la résistance notamment dans la SNCF. Et puis il y a Le Père Tranquille juste après, qui est aussi un très très beau film sur la résistance. Tout est caché, tout est très très beau. On peut aussi évoquer Le Corbeau, hein, de Clouzot, qui a été fait pendant la guerre et qui est un film qui est tellement compliqué, il a même été accusé de collaboration, puisque le film a été financé par des capitaux allemands. Ça a fait beaucoup de tort à Clouzot. Et puis évidemment, il y a le très très grand film, hein, qui est souvent la grande référence sur les films de résistance, c'est L'Armée des Ombres de Melville, qui arrivera un peu plus tard en 69. Donc sur ce thème, il y a plein de films, mais ce sont des films qui sont qui justement ne franchissent pas, ne parlent pas des choses qui fâchent. On est du côté des résistants, on montre la résistance, la grandeur de la résistance, toute la grande morale évidemment, bien sûr, et le patriotisme des résistants. Il y a aussi, il faut le dire bien sûr, des comédies. Enfin, il y a la Grande Vadrouille, bien sûr, qui aborde avec beaucoup de drôlerie. C'est merveilleux. Hein. C'est cette période très dure. Donc ça aussi, c'est une très très grande réussite. Et en fait, il faut quand même noter que pendant assez longtemps, plus de 20 ans, le cinéma français parle de cette période, mais n'en parle qu'en termes patriotiques ou très tranchés, comme je disais. Les heures troubles, on n'en parle pas encore, il faut attendre un peu. Et puis, en fait, l'un des grands révélateurs en France, c'est le documentaire de Marcel Ophuls, le Chagrin et la Pitié, qui est un documentaire où il va aller interviewer beaucoup de Français. Et là, évidemment, ça casse le mythe, si je puis dire. En tout cas, ça lance une énorme polémique, puisque beaucoup de Français... parle du pétainisme à l'époque. Enfin voilà, ce n'était pas tout le monde était derrière De Gaulle caché. Non, beaucoup de gens étaient pétainistes. En tout cas, ça lance un pavé dans la mare, même si ce film y a beaucoup à en dire. Voilà. Et donc il faut attendre voilà plus de 20 ans, 30 ans pour que les choses se décantent. Et La Combe Lucien arrive là-dessus. Et c'est le film qui accompagne en fait, qui parle à nouveau de ces choses qui fâchent.
Oui, donc on comprend mieux pourquoi le film a été comme un film coup de poing à sa sortie en quelque sorte. Bien, merci Pierre. Eh bien, pour le plaisir, alors on change un peu d'atmosphère. Je vous propose, en guise de transition, alors on reste chez Louis Malle, on change de film. Cet ascenseur pour l'échafaud, c'est Miles Davis qui est à la trompette. C'est parti. J'espère que nous aurons donné envie à nos auditeurs de voir ou de revoir sur grand écran alors, les deux films qui nous attendent au mois d'avril. Je rappelle les dates. Pour Rocco et ses frères, c'est vendredi 12 avril à 20h30 et lundi 15 avril à 18h. Et pour La Combe Lucien, c'est deux jours plus tard, mercredi 17 avril à 18h. Alors Pierre, pour terminer notre quiz musical... je te laisse présenter, peut-être révéler à nos auditeurs quelle était la solution.
Eh bien, le mois dernier, il fallait trouver que c'était la musique du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri sur une musique de Philippe Sard, voilà, qui, La Grande Bouffe qui avait été projetée dans le cadre du festival.
Oui, oui, en effet. Eh bien, je vous propose maintenant d'écouter le quiz du mois. Hein. Il s'agit de trouver le titre du film et le compositeur, et bien entendu, alors l'interprète de cette chanson, car il s'agit d'une chanson.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open.
Alors, si vous avez reconnu la voix suave et enveloppante de l'interprète de cette chanson, vous trouverez aisément le titre du film qui l'accompagnait. Alors, vous contactez les réseaux sociaux de Dick Radio et vous donnez la réponse. Voilà, tout simplement. Rémi, on rappelle à nos auditeurs...
Eh bien, on rappelle que si vous souhaitez soutenir l'association Kinozoom, hein, qui enregistre les émissions de Kinozoom et qui organise le festival du film de Fontenay-le-Comte, le ciné-club, des ateliers, etc., eh bien, c'est possible. Vous vous rendez sur le site d'Eloasso en tapant association Kinozoom ou sur le site internet de Kinozoom, kinozoomcinema.com. Vous retrouverez voilà, toutes les informations sur notre association, et vous pouvez nous soutenir en adhérant.
Très bien, merci Rémi, merci Pierre.
Merci.
On se retrouve en mai pour une prochaine émission. À très bientôt au cinéma et sur les ondes de Dig Radio.
Coupé. Elle était bien celle-là.
Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.